C'est Nora Hamzaoui.
Dans son nouvel spectacle, d'ailleurs, elle est obsédée par la joie. Elle aimerait que tous les Français s'y convertissent et elle l'affirme. Au fond, c'est pas si difficile.
Non, mais c'est vrai que si je pouvais mettre tout le monde sous antidépresseur, je le ferais. Enfin, tout le monde. Il y a quelques rares personnes qui, d'après moi, n'en ont pas besoin, mais elles sont rares.
C'est l'histoire d'une femme qui monte sur scène et qui confirme ce que disent les docteurs. Le rire est le meilleur des antistress. Elle est énervée, exaspérée même. Parfois pour les bonnes raisons et souvent pour les mauvaises. Cette exaspération, Nora Hamzaoui en fait un ressort comique pour raconter le quotidien d'une femme de 40 ans en couple avec enfant. Situation sociale proche du prototype qu'elle dynamite en s'arrogeant tous les droits. Une franchise crue et une bonne dose de mauvaise foi. Son spectacle carbure au contraste. Un débit assuré qui raconterait certitude, détermination et qui trahit finalement cette question « Dans quel état j'erre ?» Tandis que nous nous efforçons de donner le change, Nora Hamzaoui assume tout. Ses antidépresseurs, sa libido au niveau de la mère, la normalité quotidienne de sa vie d'hétéro, ou encore son obsession du regard des autres. Elle tient la scène des Folies Bergères jusqu'au 30 mars avant une tournée dans toute la France jusqu'en juin. Juin 2025. Elle a fait des études de com et rempli des missions où elle ne comprenait rien. Elle a rongé son frein dans la presse féminine avant qu'une amie ne lui dise simplement « Fais ton truc ». Faire son truc lui garantit d'ailleurs une liberté de parole. Récemment, Nora Hamzaoui a pris position contre la sortie d'un film de Jacques Doyon dans lequel elle joue l'un des rôles principaux. Faire son truc. Quand on la voit sur scène, on se dit « Plus que les antidépresseurs, ce serait peut-être ça la solution ».
Totémic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
En général, je demande à l'invité de choisir un tube. Mais elle en a choisi 14. Un album entier, en fait. Celui de la Canadienne Faced. Finalement, Nora Hamzaoui a opté pour une chanson du disque. Et là, j'ai dit...
Et puis je me permets de choisir autre chose.
Allez-y.
D'accord.
J'adore. Mais mes amis se foutent de ma gueule parce que, en fait, tous ceux qui me connaissent depuis... je sais pas, ça doit faire 15 ans, non, cet album.
Plus, c'est ouais. 2007.
Ouais, ouais, c'est ça. Ils me disent, t'écoutes la même chose depuis qu'on t'a rencontré. À l'époque, il y avait Bref et tous ces humoristes qui commençaient à monter. Et je me souviens vraiment que je le vivais comme un échec personnel. Enfin, vraiment, chaque épisode brillant de Bref était une dépression pour moi.
Pourquoi ?
Parce que je me disais pourquoi j'en fais pas partie, comment j'ai pu me louper, pourquoi je suis pas créative, pourquoi ils ont plus eu l'audace que moi de comprendre qu'ils voulaient faire ça et de le faire.
Ça vous renvoyait à votre absence d'initiative, en fait.
Complètement. Mon défaut jeune, et que j'ai encore parfois un peu, je crois très fort qu'il va m'arriver des choses bien, mais c'est vraiment dépendant que des autres. Donc, j'ai toujours rêvé que quelqu'un me repère et me trouve fabuleuse.
D'être l'élu.
D'être l'élu, exactement. Ouais, exactement. Et quand je me suis aperçue que j'étais pas du tout l'élu aux yeux des gens, et notamment, par exemple, avec une de mes premières expériences télé de On ne demande qu'à en rire avec Jean Benguigui qui me dit que je suis nulle. Et en fait, je sais pas pourquoi cet album, il est, pour moi, il est le, c'est l'album de... Du moment où j'ai commencé à écrire, à me réapproprier mes peines, ceci, une période pendant laquelle je me faisais beaucoup larguer et puis revenir, enfin voilà. Et c'était ma musique de fond tout le temps pour créer, pour me réapproprier mes chagrins et mes inconforts et d'en faire des trucs un peu le plus créatif ou joyeux.
C'est la bande-son de ça, en fait.
Ouais, pour moi, ouais. Ouais. Bande-son de... C'est moi qui décide.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis ? Le goût de la scène ? Écrire ? Mmh. Aller au théâtre ?
Non, non, pas du tout.
Ah, ça, c'est un cri du cœur.
Ouais, ouais. Non, non, moi, mais après, je dis ça, ça paraît toujours un peu violent. Et malgré tout l'amour que je porte à ma famille, rien ne m'a été transmis. Moi, j'ai pas mon père, je connais pas mon père. Je connais très peu de choses de mes origines. Ma mère, ayant été veuve avec 4 enfants, on n'a pas eu ce truc de mémoire, de transmission de mémoire, de transmission. Il y a plutôt eu un espèce de truc de genre... table rase, chacun, on y va, on avance, on pense pas au passé. On m'a pas dit lis ça, allons voir ça, allons faire telle expo. Les expos que j'ai fait, les premiers musées que j'ai vus, je les ai vus grâce à l'école. Il n'y avait pas le goût de la scène, du théâtre. Par contre, je pense qu'il y avait un certain goût de la mise en scène, mais complètement inconsciente, la mise en scène familiale, narcissique et égocentrique. Peut-être que c'est la chance, si on doit tirer une chance parfois, des drames ou des histoires ou des enfances un peu chargées, des trucs où tu es obligé de regarder la situation de haut et de te dire ce truc-là, il est un peu zinzin, il est un peu... il mérite d'être vu, transformé et raconté autrement, je ne sais pas comment dire. Pendant longtemps, et même maintenant, je ne me suis pas complètement sentie comédienne. J'ai toujours été fascinée quand j'entendais des interviews d'acteurs, de gens qui disaient « on rentre dans les chaussures et on est le personnage ». Et moi, je me disais « moi, je rentre nulle part et je suis personne ». Enfin, il y a un truc...
Comment il est arrivé ce costume de scène, justement, qui donne la sensation qu'en fait, vous montez sur scène, comme vous êtes dans la vie, avec ce costume de le chignon, les lunettes, le t-shirt, le jean, les baskets?
Je pense que quand j'ai décidé de faire mon premier spectacle qui a été connu du public, on va dire, il a été produit il y a peut-être, je sais pas, 10 ans ou 12 ans, j'ai quitté mon boulot, je me suis lancée dans le spectacle et j'ai réfléchi le personnage. Je me suis dit, je l'ai réfléchi un peu comme un dessin ou comme une BD, comme un cartoon. Et c'est comme un speed dating, on a peu de temps, qui je suis, il faut qu'on voit vite le personnage et tout. Et donc j'ai pris le jean t-shirt blanc qui est ma tenue préférée. Très vite, il y a eu les lunettes, il y a eu le fait d'être pressée, d'avoir peur qu'on ne m'écoute pas, de ne pas avoir le temps de parler. Et je m'étais dit, elle est dans un syndrome prémenstruel en permanence. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de choses à dire, mais si on la contredit, ça va énormément l'énerver. Elle ne laisse pas d'espace pour les autres. Et après, les cheveux, le bun, c'est arrivé, le chignon haut, c'est arrivé parce que je transpirais énormément sur scène. Et là, j'avais envie de les lâcher sur celui-ci, j'avais envie d'enlever mes lunettes. Mais je n'aime pas jouer en lentilles. Je pourrais jouer sans lunettes, mais j'ai envie de voir les gens. J'avais envie de jouer avec mes cheveux détachés parce que je suis de plus en plus les cheveux détachés et que j'en ai marre de cette silhouette parfois. Mais si j'ai les cheveux détachés, je commence à jouer avec et une fois de plus, j'ai l'impression d'être, je sais pas, dans une forme de, peut-être pas de séduction, mais en tout cas de vulnérabilité, d'avoir trop conscience de moi-même. Donc je mets des choses qui me permettent de pas avoir trop conscience de moi-même.
Moi, je suis venue vous voir dans une petite salle. Je sais pas combien on était, mais en tout cas, on était très très proche de vous. C'est important de les voir, les gens.
Ça a énormément évolué au fur et à mesure de mes spectacles. C'est-à-dire que quand j'ai commencé sur scène, je ne voulais pas voir les gens. Je demandais au régisseur de me mettre un plein feu le plus fort possible pour être éblouie. Et j'étais comme un lapin dans les phares. Et je me disais comme ça, au moins, je vois aucune réaction. Je vois pas si les gens s'endorment, je vois pas s'il y a d'accident. Mais d'ailleurs, ce qui avait provoqué à l'époque, je pense, mon débit qui a quand même ralenti depuis. Mais c'était un truc genre à toute allure, rien, toute seule dans un espèce de tunnel, ce qui n'a aucun sens en fait, parce qu'on se demande où est le plaisir là-dedans. Non, je crois qu'en fait, mon rapport aux gens, globalement, s'est transformé dans l'idée de me dire j'ai pas à leur plaire. Enfin, c'est-à-dire que mon souci principal est qu'ils rient et qu'ils aiment mon spectacle et qu'ils s'identifient, mais j'ai pas peur de leur réaction, j'ai pas peur de leur déplaire, j'ai pas peur qu'ils s'endorment. Et au contraire, j'adore les petits accidents, j'adore que ça parte dans tous les sens. Quelqu'un qui baille, quelqu'un qui s'en fout, et même quelqu'un qui me trouverait nul à chier, est-ce que c'est si grave?
Vous n'avez pas peur de déplaire?
C'est nouveau. J'ai pas peur de déplaire sur scène. En dehors de la scène, c'est une catastrophe. Au cinéma, je vais avoir peur de déplaire. Si je suis en tant qu'actrice, j'ai peur de déplaire au réalisateur. Sur une photo, sur un shooting, c'est atroce, mais parce que je me déplais à moi-même, que j'ai envie d'être belle, ce que j'ai dans le spectacle, je suis obsédée à l'idée d'être belle, ce qui n'a quand même aucune importance, mais ça m'obsède. Et dans le spectacle, je m'en fous. Dans le spectacle, il y a un truc où je sais tellement que ça se place pas là, et que c'est sans doute pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. C'est un lieu où je vais pouvoir explorer peut-être toutes mes... C'est même pas des failles, je crois. Au contraire, c'est un espèce d'espace où on n'a pas à correspondre à quoi que ce soit, en fait.
Et votre débit sur scène, qui est super rapide, même dans la
encore
vie. Ça veut dire que...
Que j'essaye de le corriger.
Ou que vous essayez un peu de le ralentir.
Ouais. Non, parce qu'il est vraiment né du trac, le débit. Le débit, au départ, moi, j'en avais pas du tout conscience. Et c'est les premiers papiers que j'ai eus. C'est la presse qui a défini ce truc-là, ou les médias... où j'avais des super articles, mais que, tout à coup, ça signait avec son débit mitraillette, nanana, avec ce débit, ce truc où des gens me disaient « elle aurait pu être rappeuse, quoi, elle parle ». En fait, sur scène, je me suis toujours dit « c'est comme ça, c'est une signature ». Et après, quand j'ai commencé à faire de la radio, que je voyais des commentaires de gens qui disaient « on comprend rien quand elle parle et tout ». Et je me disais « bon, il y a peut-être un problème ». Et je réécoute parfois mais plus en radio qu'en spectacle. En spectacle, je trouve que c'était un peu plus maîtrisé. Mais je me rends compte, j'arrive à l'écoute, je peux complètement savoir si c'est moi, mon personnage, ou si c'est du trac et du stress. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce débit, mais je sais en jouer, je sais ralentir, j'accepte les silences, j'accepte les temps. J'aime bien créer une musique.
Extrait du deuxième spectacle de Nora Hamzaoui qu'elle a joué en 2018.
Pourquoi je faisais ça? Oui, parce que j'ai toute la faute d'Internet, parce que j'en ai marre de passer un temps fou sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Instagram, à mater cette meuf qui bouffe du poisson frais dans un bar de pêche à côté de Mykonos dans un maillot de bain trop petit pour elle. Je n'en peux plus de cette meuf, d'accord? Parce qu'une bonne fois pour toutes, son maillot de bain trop petit pour elle, il n'est pas comme trop petit pour toi. Parce que toi, comment tu identifies qu'un maillot de bain est trop petit pour toi? Bon, bah il y a des zones du maillot de bain qu'on ne voit plus, voilà. On le sait au moment des essayages, quand la vendeuse est là, plutôt large, échancrée, ficelle, t'es la ficelle, t'oublies, parce qu'avec les apéros, à la fin de l'été, on la verra plus, la ficelle. Elle, son maillot de bain ne rentre nulle part dans son corps. Il est posé délicatement sur son cul, comme ça, on dirait un petit nappage. Hein, de toute façon, son cul, on dirait un dessert, donc... Ah non, et même moi, j'ai envie de lui bouffer le cul, donc... comme ça, avec son cul, là. Je la hais, j'aimerais la punir, j'aimerais la foutre sur une plage paradisiaque, avec du sable blanc, de la mer turquoise, des couchers de soleil incroyables, des tartines d'avocat à la con, là, et du café au lait, avec le lait en forme de cœur, là, et elle capterait pas, elle passerait son été à chercher le réseau, cette grosse conne. Ah, oh, je perds un temps fou sur ces merdes, ça me pompe l'air, quoi. Et mon mec est là, ben enfin, arrête de regarder. Je n'ai pas envie d'arrêter de regarder.
Voici un garçon, il s'appelle Flavien Berger, Sapon est le titre de sa chanson. Hamzaoui a déboulé dans le stand-up en 2009, à un moment où cette forme théâtrale était en pleine ascension. Je dis forme théâtrale, mais je pourrais dire musicale. Puisqu'au départ, le stand-up a commencé dans les clubs de jazz. Chaque soir, l'enjeu est de raconter sa vie en jouant de variations du texte, donc avec pas mal d'improvisation. On a l'impression que une conversation s'engage avec vous. Et je dis conversation parce qu'évidemment, il y a des échanges. Vous vous saisissez de plein de choses dans la salle. Moi, le soir où je suis venue, par exemple, une fille qui s'appelle Victoria devait rejoindre des copines. Elle était en retard.
Oh, c'était le jour de la Victoria où elle n'arrivait jamais.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Au ouais. premier rang, là, avec oui. les trois filles sur la gauche.
Ouais.
Mais c'est le même soir que la fille qui m'a demandé de remplir sa gourde. Parce qu'il y a eu un soir où c'était vraiment insensé. Non, je pense que c'était pas le même soir. Je leur dis au début, sentez-vous à l'aise et tout. mais qui est une sorte de formule, comme quand on demande aux gens ça va et qu'on s'attend pas à ce qu'ils nous racontent toute leur vie. Et là, en effet, je leur dis vraiment, faites comme chez vous et tout. Et il y a des gens qui font vraiment comme chez eux. Mais du coup, c'est réjouissant. Alors parfois, c'est trop. C'est aussi le truc de se dire, comment je fais pour pas que ça déborde? Il faut que j'ai une maîtrise de mon texte parfaite pour savoir exactement quand je sors, quand je reviens, sur quoi je retombe et tout. Parce que je veux pas que ça transforme la teneur du spectacle. Je veux que ce soit des trucs qui viennent le nourrir. Mais je veux pas du tout que ce soit que de l'impro. En revanche, j'adore l'idée qu'en effet, ce soit une relation et un échange et de me servir de tout ce qui se passe... Ouais, chez eux.
Et il y a cette sensation qui est aussi propre au stand-up, hein, mais la sensation qu'en fait, que ça n'est pas écrit.
Ouais.
C'est un objectif, ça, pour vous ?
C'est un peu un truc schizophrène chez moi, c'est-à-dire que je veux pas que l'écriture se voie. En revanche, si on salue l'écriture, je vais être vraiment extrêmement heureuse. J'adore l'idée que c'est même pas l'air très travaillé, que c'est l'air d'être un moment où j'arrive et ils sont pris dans ce moment et ils n'en décrochent plus. C'est tellement rare d'être dans l'instant, je trouve, aujourd'hui. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus on évolue vers ces espèces d'addictions aux écrans ou à l'info ou à la rapidité, plus je trouve que c'est un luxe d'avoir 1h20 de vie pure, quoi. Et j'aime bien qu'il y ait un propos. Peut-être que c'est pas tant l'écriture, mais je veux qu'il y ait quand même un propos, je veux qu'il y ait un fond, quoi. Parce qu'en fait, je suis obsédée par la joie et la légèreté, mais je veux vraiment pas que ce soit anecdotique.
Vous dites « je suis obsédée par la joie et la légèreté ». Pourquoi vous êtes obsédée par ça ?
Pour plein de raisons différentes, en fait. Je pense que, d'ailleurs, j'en parle des antidépresseurs dans le spectacle.
C'est la première fois que vous en parlez, je crois.
Ouais, c'est complètement la première fois. J'ai l'impression que tous les sujets sont très lourds et très chargés et qu'on a parfois du mal à s'identifier à ces trucs-là. Et donc, j'aimais bien le fait de désacraliser ce truc-là. Je trouve qu'on caricature parfois un peu la dépression aussi. Par exemple, je trouve qu'on parle beaucoup de la dépression et de ce que c'est et des symptômes et qu'on parle pas de la joie d'en sortir. Et que c'est quand même quelque chose d'énorme. Et que moi, quand j'en parle dans le spectacle, quand les gens disent « Oui, mais j'ai peur de plus être moi-même si j'en prends. » T'es là, mais t'es pas toi-même, là, dans ton canapé en survêt, à pas bouger, à pas avoir envie de rien faire et avoir peur des gens. Être toi-même, c'est être aussi dans la vie, quoi. Souviens-toi. Enfin, je sais pas, l'autre jour, j'étais avec des amis, et ce que je dis dans le spectacle, elle me disait « Oui, mais moi, il a peur pour sa libido. » Je disais « Mais non, mais il y a des molécules qui ne touchent pas à la libido. » Et j'étais « Mais enfin... » Pas que je commence à dépasser mes zones de
compétences.
De compétences, exactement, parce que ce n'est pas mon problème. Mais non, mais c'est vrai que si je pouvais mettre tout le monde sous antidépresseur, je le ferais. Enfin, tout le monde. Il y a quelques rares personnes qui, d'après moi, n'en ont pas besoin, mais elles sont rares.
On va écouter la voix que vous avez choisie. Okay. Vous avez choisi la voix d'un personnage d'une série américaine de la fin des années 90 et du début des années 2000. C'est Sex and the City. Avec Carrie Bradshaw, cette New-Yorkaise et son groupe de copines pour aller vite, qui profitent de la vie des hommes et de leur indépendance.
Et donc, faut que je traduise.
Ouais.
In life, certain events come along so rarely.
Dans la vie, certains événements sont si rares que quand ils se produisent, il faut y prêter une attention particulière.
Events like Halley's Comet,
comme la comète de Halley, les éclipses, ou avoir un deuxième café gratuit.
And one night at a salsa club in very downtown Manhattan.
Une nuit dans un club de salsa de Manhattan, quatre copines célibataires se trouvaient sans petit ami.
On achève bien les célibataires, c'est le titre de cet épisode.
Here's to us without men.
Woo!
You're here.
I'm not toasting to that. It's bad luck.
Puis dans les dialogues, il y a les filles qui trinquent au bar. À nous sans les hommes, je trinque pas à ça, ça porte malheur. Si je vis seule, ce sera votre faute. On est toujours seul, même quand on est avec un homme. Bien dit. Mon conseil, profitez des hommes, mais n'attendez pas qu'ils vous comblent, sauf quand, enfin, j'allais dire qu'ils vous remplissent, mais ça aurait été encore plus trash. Sauf quand, bon, vous savez, oui, on sait. Donc, Carrie Bradshaw, Sex and the City, cette fille qui est bien sapée, qui est riche et qui écrit sa vie, des chroniques avec ses copines, nanana. Une série que j'adorais autant que je détestais, parce que ce personnage principal me tapait sur les nerfs. Je la trouvais vraiment con, quoi. Je me disais, c'est pas possible, elle fait que les mauvais choix. Mais en même temps, bon, ce qui est sans doute un moteur de comédie et un moteur scénaristique. Mais c'est une série que je salue aussi pour sa liberté de ton. C'était quand même une liberté de parler de sexe de tellement de façons différentes. Grâce à ces quatre stéréotypes, ces quatre filles... Quatre copines, où en effet, chaque copine représente vraiment aussi une manière de vivre sa féminité et sa sexualité. De toute façon, en fait, je crois que vraiment j'adore les femmes. J'adore les regarder, j'adore les voir parler, j'adore... En fait, je me suis rendu compte tardivement qu'à chaque fois que j'aimais pas un film et qu'on... En fait, quand il n'y a pas de femmes, ça me fait un peu chier, je m'ennuie un peu. Je sais pas, c'est même pas forcément l'identification, parce que là, je saurais pas dire à laquelle je m'identifie, mais c'est juste de les observer et de me dire c'est notre espace, quoi.
Même quand vous étiez adolescente ou vous aimiez observer les femmes ?
Bah, je pense que j'étais très double, parce que quand j'étais adolescente, j'étais obsédée par les garçons. Obsédée à l'idée de leur plaire, obsédée à l'idée d'avoir des seins, des vêtements moulants, d'être désirable. J'aimais vraiment beaucoup les garçons, enfin vraiment, enfin, en particulier un, l'adolescente, mais vraiment c'était un truc qui pouvait occuper tout mon espace mental, toute ma vie. Tout mon... Et du coup, j'étais malheureusement d'une époque où les filles étaient un peu jalouses entre elles, ou en tout cas on nous avait construit dans cette idée-là. Mais c'est vrai que je trouve que notre rapport aux femmes a mis du temps à changer, ma génération.
Votre génération, sachant que vous avez 40 ans, là.
Ouais. Je pense qu'à une époque où je l'ai regardée peut-être avec jalousie, on va dire d'un point de vue physique, me dire « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que j'aurais aimé être belle, qu'est-ce que je veux quoi ?» Aujourd'hui, j'aime leur dire que je les trouve belles, ce qui est différent. Je crois que je me suis rendu compte que c'était pas une difficulté pour moi de dire à une femme qu'elle est belle, qu'elle est forte, qu'elle est intelligente, ce qui est trop cool, quoi.
Il y a aussi évidemment la présence de votre vie de couple, en tout cas ce que vous en racontez sur scène, de la sexualité. Ça, c'est venu naturellement. C'est un truc qu'on a pointé assez tôt dans votre écriture.
Ouais. Ben moi, ça me passionne. Ça me passionne parce que je trouve que la sexualité, c'est un des terrains, c'est un peu en train de changer, mais sur lequel il y a quand même le plus de mensonges. Je trouve que même entre amis, ça se ment. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des trucs où je racontais. J'ai toujours été trop transparente, moi. C'est presque mon défaut. J'aimerais mentir. Même en couple, il faudrait que je mente parfois. Et je me souviens une fois où je disais, c'était horrible. On n'a pas baisé depuis, genre, des mois, quoi, des mois. Et vraiment, des copines qui me disaient, ah bon, mais c'est chaud. Comment ça se fait? Mais lui, il n'a pas envie. Je sais pas, parce que moi, même quand j'ai pas envie, au pire, lui, il a envie et tout. Et des années après, ça, on avoue, nous non plus et tout, quand ils se sont séparés. Et j'étais, mais pourquoi? Putain, moi je viens, je dis les trucs et tout, pourquoi au lieu de me soulager et qu'on ait une conversation joyeuse sur ces trucs-là, vous allez me mettre en position de difficulté? Et puis je trouve que c'est aussi un problème dans le couple, parce que dans le couple, c'est quand même merveilleux. Moi, ce que je raconte dans mon précédent spectacle, là, cette espèce de ce moment où on va au lit, en sachant très bien qu'on va pas coucher ensemble, mais qu'on fait semblant que tout va bien, que c'est pas grave, et on se fait un petit smack en se disant bonne nuit, en se mettant chacun de notre côté, en se disant ouf, personne ne fera une crise parce que clairement aucun de nous deux a envie. Mais même quand on regarde les normes, alors là, il y a ce truc qui est sorti que les Français. Les Français ne baissent plus. Quelle surprise! Enfin, franchement, j'aurais pu vous l'annoncer. Enfin, je veux dire, évidemment, quoi. Enfin,
Est-ce que vous vous êtes posé la question du fait d'être une femme et de parler de sexualité de cette façon-là? Ou est-ce que de toute façon, ce n'était pas un sujet?
Je ne me suis jamais posé ces questions. Peut-être parce que quand j'ai commencé, de toute façon, je jouais dans des salles de 20 personnes. Donc, je n'avais pas peur. Et je n'ai jamais conscientisé le fait que peut-être qu'un jour, je dirais cette même chose dans une salle de 1400. Peut-être que j'aurais été terrifiée à l'idée de me dire « Oula, non, je ne peux pas dire ça devant beaucoup de monde », mais par chance, c'est arrivé tellement progressivement que ça m'a accompagnée. Mais bon, heureusement, quoi, qu'on peut. Hein. Ouais, bon, pour moi, ça n'était pas un sujet. Ça a été un sujet quand, par exemple, après mon premier spectacle, on disait que j'étais trash et que c'était un spectacle girly. Et je déteste le mot girly. Et après, au deuxième
spectacle... Pourquoi vous détestez ce mot ?
Je trouve qu'il est très réducteur, je vois pas ce que ça veut dire. J'imagine tout de suite un gâteau avec des nœuds et des filles qui font des batailles de pelochon. Enfin, je comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Je l'ai jamais dit, moi, sur quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est excluant. Enfin, on n'a jamais dit d'un spectacle d'hommes, c'est un spectacle...
Quoi ? Boy.
Boy, ouais, je sais pas. Souvent, à l'extérieur, on dit « Ah, c'est étonnant, il y a plein d'hommes dans la salle qui se marrent beaucoup. » Oui, je suis pas une secte. Hein. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé, mais la société change. C'est-à-dire que ce qui était girly au deuxième spectacle est devenu féministe, au troisième spectacle est devenu je ne sais pas, on verra.
Est-ce que vous avez une forme d'autocensure ?
Non, je crois pas. Mais je crois pas parce que je pense que j'ai une vie intérieure assez consensuelle. Non, une fois, peut-être, ça m'est arrivé sur mon précédent spectacle où je me suis dit « Est-ce que ce truc-là est un peu gratuit ou blessant ?» J'expliquais qu'en gros, quand c'était sur la grossesse, et j'expliquais que ma frayeur, c'était qu'à l'accouchement, que mon enfant ressemble à ma belle-mère. Et j'avais un truc, l'idée que la tête de ma belle-mère puisse sortir de... Et donc, je crois que c'était vraiment trop pour les gens. Ils étaient là, genre, soit ils trouvaient ça hyper méchant, soit ils trouvaient ça trop trash. Je sais pas comment je le disais, mais vraiment, je sentais que ça arrivait un truc et j'ai jamais réussi à le formuler. Peut-être qu'en fait, il aurait fallu dire, ma frayeur principale, c'était ça, ça, ça. Puis j'avoue aussi, j'avais hyper peur qu'il ressemble à la mère de mon mec. Et que là, ça aurait fait un rire parce que c'était plus léger.
Ça veut dire que finalement, l'écriture, elle tient à un mot.
En tout cas, elle tient vraiment à un sens de la synthèse parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce spectacle et que je faisais des lectures à mon équipe, j'avais une idée qui tenait sur une page. Il me disait « Ok, lâche ton texte, dis-nous ce que tu veux dire. » Je disais « c'est simple que... soit, voilà. » Il me disait « voilà, là, on comprend mieux que tes 40 lignes où tu nous as dit un truc. » Et ce qui est presque un peu troublant ou vexant, parce qu'au moment où on écrit, on a un truc d'égo de se dire « Oh là là, je suis inspirée, et des pages, et des pages, et c'est intelligent, et je sais pas quoi. » Et en fait, il y a beaucoup de théories, beaucoup trop de mots en trop, beaucoup trop de... Je me suis vue écrire ma dissertation en première L en espérant avoir 19. J'ai voulu montrer que j'étais intelligente. Ça aussi, c'est un truc qui est compliqué, je trouve. Pour moi, en tout cas. Laisser de côté le fait de prouver qu'on a compris quelque chose. Et moi, je pense qu'on a compris quelque chose à partir du moment où on fait rire et que le rire est noble et tout. Mais parfois, je voyais qu'il y avait des idées brillantes à l'écrit. Et je me dis, c'est peut-être brillant, mais tout le monde s'en fout. Et c'est long, et peut-être t'en feras un essai si tu veux. Mais ça n'a rien à faire dans un spectacle.
La chanson à venir fut écrite et composée pour une comédie musicale par Irving Berlin en 1926. Et elle est reprise par Lana Del Rey en 2024. C'est Blue Skies.
Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. In the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly.
Nora Hamzaoui, humoriste, comédienne, et dans Tout est mic jusqu'à 10h. Est-ce que le fait aujourd'hui de jouer au cinéma, et notamment dans du cinéma d'auteur, je pense à Olivier Assayas, à Pascal Bonitzer, j'aurais une question sur Doyon évidemment, mais est-ce que c'est vraiment deux univers complètement différents, de jouer dans le cinéma d'auteur et de faire du stand-up?
Ouais, en fait, c'est marrant, je pensais, la première fois que ça arrivait, donc avant que je tourne avec Olivier Assayas, quand on m'a dit « Olivier Assayas veut te rencontrer », j'ai dit à mon agent de l'époque, que j'échange autre temps, je lui ai dit « je pense que tu te trompes de destinataire ». Et elle m'a dit « non, pourquoi ?» Je ne vois pas pourquoi il voudrait me rencontrer. Donc bon, déjà, super la confiance en soi de l'époque. Mais bon, en même temps, je n'avais pas complètement tort dans la mesure où il ne savait pas vraiment qui j'étais, qu'il a découvert en regardant une chronique sur France Inter, et quand il est venu voir mon spectacle, je crois que c'était la première fois qu'il allait voir un stand-up. Donc, Et j'imaginais, quand j'ai vu le casting, c'était Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Guillaume Canet. Tout à coup, je me suis dit, oh, je vais arriver dans un truc où je vais être l'espèce de plouc de service, parce qu'on a une image de soi, ou j'ai une image de moi, de me dire l'humour, c'est moins chic. Parce qu'il y a aussi toujours une espèce d'idée de maintenant, elle va faire du cinéma. Je me souviens, quand j'ai arrêté Quotidien, dès qu'on arrête un spectacle, ou dès qu'un humoriste est un peu loin, c'est maintenant, il va se consacrer au cinéma. Comme c'était le Graal, comme c'était vraiment l'ambition suprême et le point d'arrivée suprême, alors que c'est tellement beau de fabriquer ses propres trucs, quoi. Donc, mes lunettes sont tombées. Donc, je suis arrivée sur le tournage en étant très intimidée, en me disant, on ne va pas parler le même langage, ça va être très différent. Et, en fait... C'est devenu des amis avec qui ça a été beaucoup plus facile de dialoguer que parfois certains humoristes avec qui j'arrive pas à être tout le temps dans la vanne et dans un truc qui est un milieu quand même très viril aussi, l'humour, je trouve. Où là, tout à coup, j'ai trouvé ça plus doux et que ça me ressemblait peut-être plus humainement. En revanche, je trouve que c'est un exercice qui n'a en effet rien à voir de se mettre au service d'un réal et d'une équipe et d'un film, d'un projet qui n'est pas le sien et de faire ses propres trucs, ouais.
Là devait sortir le film de Jacques Doyon, CE2, dont la sortie a d'abord été annulée, et puis reprogrammée. Vous vous êtes exprimé publiquement, en tout cas sur votre compte Instagram, pour dire que vous étiez opposé à la sortie du film. Et au final, le film ne sortira pas. Comment vous avez vécu ça ?
Je l'ai vécu d'une manière assez simple et naturelle. C'est-à-dire que... Il faut savoir que le film, on l'a tourné il y a 5 ans. 4 ou 5 ans. Ça fait 4 ans qu'il est bloqué. Je pense que pour les acteurs, les techniciens, j'en sais rien, je ne peux pas parler à la place de tout le monde. On avait un peu fait le deuil de ce film en sachant pas... Enfin, il était bloqué pour des raisons de désaccord, je crois, entre la production, le montage final, je ne sais pas. Enfin, c'est eux qui seront mieux, d'ailleurs. Mais bref, ça fait 4 ans qu'on l'a fait, ce film. Il se trouve que moi, dans ce film, je joue la mère d'une enfant harcelée. Que le sujet qui me plaît, c'est le harcèlement scolaire. Et le fait de jouer la mère qui protège cet enfant, parce que c'est des sujets qui me touchent. Et là, j'apprends que le film va sortir au moment où il y a toutes ces accusations de harcèlement, de violence et de viol. Donc il y a un moment, en fait, la question ne se pose même pas pour moi. Il est en train de se passer quelque chose d'important concernant la libération de la parole sur des faits de violence, sur mineurs ou pas, d'ailleurs, dans le milieu du cinéma, mais j'espère que ce ne sera pas que dans le milieu du cinéma. Je pense que là, sortir le film maintenant, c'est vraiment un manque de respect. Et oui, je crois que c'est ce que je dis. Je dis, je ne soutiens pas cette décision qui me semble être un mépris vis-à-vis de la parole des femmes. Là où je commence à être troublée, c'est après, quand je reçois un nombre de messages qui saluent, par exemple, mon courage, et je me dis, il y a du courage là-dedans. Ça me semble logique. Et donc, je me dis, s'il y a du courage, si on estime qu'il y a tant de courage, j'ai reçu des messages merveilleux d'actrices, de réalisatrices, mais aussi de réalisateurs et d'acteurs. Et je me dis, bah, si on me dit qu'il y a du courage, c'est bien qu'il y a une peur quelque part. Peut-être que je m'autorise à avoir cette liberté-là parce que je ne dépends pas de cette industrie-là. Peut-être que c'est parce que aussi je fais du stand-up et que peut-être que je n'ai pas peur d'être blacklistée ou quoi. Et je ne pense même pas là. De toute façon, je m'en fous, je ne tourne même pas tant que ça, donc ce n'est même pas le sujet. Mais c'est surtout qu'il y a un moment où je pense qu'on va arrêter de penser à soi. Et les gens qui disent, mais toi, tu as fait quelque chose, toi, tu as un... Non. Mais en fait, la parole des femmes et des victimes est toujours atténuée par... Oui, ok, mais elle est montée chez lui. Oui, ok, mais elle aussi, elle est un peu folle. Oui, ok, mais en même temps, elle avait dit ça. Oui, ok, mais son ex d'avant, c'était blablabla. Ça suffit, les mais. Et donc moi, si j'allais soutenir la sortie de ce film pour dire que moi, mon expérience à moi n'avait pas été douloureuse, mais c'est une fois de plus nier, parce que c'est le truc qu'on connaît toutes, ou que connaissent, je pense, malheureusement, la plupart des victimes, c'est un moment de vouloir dire... Et fais pas trop de bruit, parce que toi, ça va. Mais moi, là, il s'agit pas de moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, j'ai pas voulu aller m'exprimer, parce qu'après, il y a eu 48 heures de médias qui voulaient que je prenne la parole. Il s'agit pas de moi. Moi, il s'agit de dire, il y a un moment où il se passe quelque chose, ce serait bien qu'on soit à l'écoute et qu'il y a un temps pour tout. Et c'est ce que je ressens, quoi. Et après, il y a eu ce commentaire de Dominique Besnéard qui est aussi drôle que grotesque.
Où il parle, en fait, sur Facebook, je crois,
oui,
où il dit que le problème du film, c'est vous, voilà. Vous n'êtes pas bonne dans le film.
Et ce truc-là vient tellement souligner les multiples problèmes de l'époque, c'est que, un, quand bien même je serais le problème du film, on n'est pas en train de te dire qui est bon, qui est acteur, donne-moi un prix, donne-moi une médaille, donne-moi une gommette, on te parle de violence. Donc on n'en a rien à carrer, en fait, que je sois bonne ou pas bonne dans le film. Et deux, ça sous-entend aussi qu'une fois de plus, si on parle, ah ben, on va avoir mauvaise réputation. Bon, par ailleurs, il s'est excusé. Pas publiquement, mais par voie d'agent. Mais c'est quand même un délire, je trouve. Alors, tout le monde m'a dit, t'as dû vivre un sacré truc, ça a dû être un... Je dis, franchement, non. Si ça, c'est être un sacré truc de dire, je trouve que c'est pas le bon timing, je trouve que c'est pas le bon moment, je trouve que c'est vraiment un peu limite. Et alors, quand les gens disent, eh oui, et tous les techniciens et tous les gens qui ont bossé sur le film, bah... Tu crois qu'ils ont envie d'être associés à ça ? Tu crois que c'est un moment heureux, même pour eux, de faire ce truc-là ? Et depuis 4 ans, on se pose la question du respect des techniciens et je sais pas quoi. Donc bon, à un moment, ça suffit. Et puis moi, c'était pas une bataille, hein. C'était vraiment un point de vue. À la base, c'est une story. Je dis, je trouve que c'est un mauvais timing. Et puis ça prend une ampleur folle. Mais je me dis, c'est intéressant, parce que si ça prend une ampleur folle, c'est qu'il y a du chemin à faire. Hein. Enfin bon. Oh là là, ben voilà, ça commence, mais elle est extrêmement excitée. Chut, en fait, elle est malade depuis ce matin. Bref.
Je précise qu'on parle des chats.
On parle des chats, ouais, voilà. Ouais. Oui, je n'héberge pas des gens à caractère difficile chez moi. Chut. Et je leur parlerai pas comme ça non plus. Mais... non, mais arrête par contre, c'est hyper agaçant. Arrête. Je ne sais plus du coup ce que je disais.
On fait la photo ?
Oui.
Alors, on la fait là. Je vous laisse le prendre.
Voilà, faudrait que ça reste comme ça. Là, je valide.
Voilà, donc je précise que c'est quasiment tout blanc et qu'il y a juste le contour de votre visage, vos cheveux et qu'on voit rien en détail, quoi.
Ouais, c'est ça. Et généralement, le Polaroid, c'est suffisamment un peu flou pour que ça passe. C'est ça qui est bien dans les Polaroids. J'ai la bouche, je déteste, j'ai fait une jupée. J'espère que j'ai pas ça depuis le début.
C'est quoi une jupée ?
C'est la, la bave. C'est le truc, là. Oh, quelle horreur. J'ai ça depuis le début. Ça a dû vous empêcher de m'écouter. L'horreur. Bah, c'est sa bave qui lui a vraiment flingué son...
Comment on dit, son intervention à la télé entre...
Vraiment, tous les Français ont vu ce truc se mouvoir sur ses lèvres en se disant il va bien avoir conscience, et non. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais la tête que j'aimerais avoir, quoi.
C'est-à-dire ?
Bah, je sais pas, là, j'ai l'air vraiment... On dirait que vous êtes venu chez moi à 5h45 du mat. On dirait que je viens de me réveiller. C'est hallucinant, quand même. Alors que je passe ma vie à me faire des rouleaux de jade. Je m'achète tous les appareils, là, qui coûtent une fortune. Pour que ça se termine comme ça, Rebecca. Mais écoutez, je valide, je m'en fiche. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire ? Non, mais ça va, non ?
Non, mais je la trouve très bien. Vous êtes souriante.
Vous êtes, oui, mais ça, c'est affreux. Si vous la trouvez très bien, c'est qu'en vrai, je ressemble vraiment à ça. C'est-à-dire que j'ai une idée de moi-même qui est bien plus haute que ce que je suis, je pense.
Et est-ce que vous vous êtes acheté des cuissardes en vrai ?
Ah, bien sûr. Et je les mets très souvent. Merveilleux. Et vous, vous en avez ?
Pas encore.
Ok. Bah, il faut.
Merci, Nora Hamzaoui.
Merci à vous.
Nora Hamzaoui est sur la scène des Folies Bergères jusqu'au 30 mars, avant des dates dans toute la France jusqu'en juin 2025. Le coup d'envoi de la tournée sera donné à Clermont-Ferrand le 2 octobre. Koy Nguyen réalise Totemic et c'était avec Laurent Baudouin ce matin. Perrine Malinge programme les invités de l'émission. Ilinka Negulescu en assure la préparation et JB Audibert choisit nos disques. La semaine prochaine, je vous emmène à l'opéra dans la loge du danseur étoile Guillaume Diop. Et la semaine suivante, je vous emmène au cinéma avec Isabelle Huppert. Et tout de suite, le micro est à lui, à qui Ali Rebehi. Salut Ali.
Salut Rebecca. Et bien, ce matin, le plaisir de regarder des séries comiques à l'occasion du festival Sérimania qui débute ce matin à Lille à l'occasion de la sortie du livre L'essence de la comédie d'Yves Lavandier. Rebecca, votre série comique qui ne cesse de vous faire marrer.
Ah, je pense que c'est Seinfeld.
Ah, je suis d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous, ma chère Rebecca. Et on vous retrouve évidemment dimanche matin à 10h et à 20h pour Le Masque et la Plume.
Merci Ali, à tout de suite.